De toute manière, ce qu'il faut retenir, c'est que cette période de sevrage sera extrêmement pénible pour le patient. Donc il faut, là, l'aspect éducation thérapeutique, suivi rapproché est extrêmement important. Il faut être extrêmement disponible. Le patient, il va nous appeler tous les deux jours parce qu'il en a marre, parce qu'il veut reprendre son traitement, parce qu'il veut vous tuer, parce que bon. Donc il faut vraiment être disponible. Et s'adapter au cas par cas. On ne peut pas dire au patient, voilà, vous arrêtez votre truc, vous prendrez du Neurontin 300, 600, puis on se revoit dans 2 mois. Ça ne se passe pas comme ça. C'est des moments où c'est très difficile pour le patient, où il faut l'accompagner. Et là encore, le patient doit être accompagné par un spécialiste entraîné à ces prises en charge-là. Une fois qu'on a fait ce sevrage, cet essai de sevrage, parfois, ça se passe très bien. Parfois, les gens, bon, ils vont déguster pendant quelques jours, et puis finalement, après, ils disent, bah oui, bah ça y est, maintenant, ça va beaucoup mieux, et ils peuvent soit ne plus être traités du tout, soit être traités avec des petites doses d'autres traitements, donc on repart dans des choses finalement assez simples. Et puis, il y a des cas où c'est plus compliqué, et il y a des cas où finalement, on est amené à maintenir des petites doses d'agoniste dopaminergique, ou à remettre des petites doses après une période de sevrage. Et ça, parfois, ça peut bien marcher, de faire vraiment un wash-out complet pendant, alors on ne sait pas dire très bien combien de temps il faut, plus le wash-out va être long probablement, plus il va être efficace. Mais une fois qu'on a fait ça, probablement on retrouve une certaine sensibilité des récepteurs à la dopamine qui permet de repartir sur un traitement dopaminergique à plus petite dose avec une nouvelle efficacité. Évidemment, ces patients sont à risque de redévelopper un certain nombre d'augmentations plus ou moins rapidement, donc ils doivent être très encadrés. Et suivi de près. Alors, un autre effet indésirable problématique des dopaminergiques, c'est un symptôme qu'on appelle le trouble du contrôle des impulsions. Donc, c'est une modification du comportement qui va se traduire par des comportements compulsifs qui peuvent survenir dans différents domaines. Ça a été décrit initialement surtout des compulsions aux achats, donc des gens qui deviennent des acheteurs pathologiques alors qu'ils n'étaient pas forcément du tout avant. Le jeu, alors ça peut être du jeu anodin, ça peut être des petits jeux sur le smartphone ou sur Internet que les gens faisaient de manière occasionnelle et puis qu'ils commencent à faire de manière compulsive. Donc ils le font de manière beaucoup plus prolongée chaque jour, avec un besoin de le faire. Ça devient envahissant, ça empiète sur le reste des activités personnelles et sociales. Donc ça peut être un souci aussi. Et puis ça peut être des jeux d'argent. Et les premiers cas qui ont défrayé la chronique de troubles de contrôle des impulsions, ça a été des cas de gens qui ont perdu des sommes très importantes dans des casinos, et ce qui a mis en cause le médecin prescripteur et l'industrie pharmaceutique derrière. Ça peut être aussi une augmentation de l'activité sexuelle, qui jusqu'à un certain degré peut être plutôt bien vécue, mais à un degré ultérieur devient quand même problématique. Et puis, troubles du comportement alimentaire aussi, avec des espèces d'épisodes de boulimie. Enfin, puis après, on peut avoir des choses beaucoup plus très focales, très bizarres, des comportements qui se mettent à devenir envahissants. Alors, on ne sait pas pourquoi tel comportement plutôt que tel autre. Donc, ce trouble du comportement des impulsions, il a été décrit initialement dans la maladie de Parkinson, puisque donc, c'était la première indication des traitements dopaminergiques. Et on a rapidement acté le fait que c'était une complication du traitement dopaminergique. Pendant un temps, on a pensé que cette complication des dopaminergiques survenait exclusivement chez les parkinsoniens et que c'était ce traitement chez les parkinsoniens qui pouvait donner ça, mais que ce n'était pas le traitement en soi. Et en fait, on s'est rendu compte, avec l'expérience sur les jambes sans repos, que des agonistes dopaminergiques en dehors d'un Parkinson donnaient aussi cette pathologie-là, et probablement de manière beaucoup plus fréquente que ce qu'on avait estimé au départ. Donc ce trouble du contrôle des impulsions peut survenir à tout moment, ça peut être quasiment dès le début de traitement, mais ça peut être aussi après une période prolongée de traitement, sans que au départ ce problème n'ait été présent, et puis ça va apparaître. Donc il faut tout le temps le rechercher. C'est lié à la dose, mais ça peut survenir aussi déjà pour des faibles doses. Et lorsque le trouble du contrôle des impulsions est important, a des conséquences sur la vie du patient, il n'y a pas d'autre solution que de sevrer les agonistes dopaminergiques, et probablement de manière définitive, avec un gros risque que le problème revienne si on réintroduit les agonistes dopaminergiques. Donc là encore, le traitement il est surtout préventif, donc utiliser les plus faibles doses possibles de traitement dopaminergique. Et puis l'aspect éducation du patient là, est très très importante. On doit avertir le patient lui-même, nous, d'un point de vue médico-légal, médecin, on doit noter dans notre courrier au correspondant et dans notre dossier qu'on a averti le patient, parce que si après il y a des conséquences graves, il faut qu'on puisse se couvrir là-dessus. Donc il faut bien avertir le patient, si possible aussi avertir son entourage, si le conjoint du patient peut être au courant et un peu attentif à ça, ça peut être une aide aussi, avertir le médecin traitant. Donc il faut vraiment que tous les acteurs de la prise en charge soient conscients de ce risque et vigilants par rapport à ça. Donc ça doit être dit avant la première prescription, et puis ça doit être recherché à chaque visite. Chaque fois qu'on represcrit la dopaminergique, on doit reposer nos deux petites questions pour savoir si le comportement ne s'est pas modifié dans tel ou tel domaine. Voilà, donc la conclusion un petit peu de ça, c'est que il y a des effets indésirables problématiques des traitements, notamment agonistes dopaminergiques, dans un certain nombre des jambes sans repos, et qu'on peut minimiser ce risque si on gère correctement le traitement. Et c'est vraiment un des messages majeurs de notre conférence de consensus, c'est veut dire voilà, qu'il y a une manière de traiter les patients qui doit être très rigoureuse, en recherchant les facteurs favorisants, notamment la carence en fer, en essayant les petits moyens non médicamenteux, en ne traitant pas les formes légères, et si on donne des médicaments, bien choisir le traitement de première intention et toujours être dans l'optique, posologie la plus faible, atteinte progressive, ne pas modifier le traitement sans avis médical, hein, beaucoup se méfier de l'automédication ou de l'auto-adaptation des doses par les patients, essayer doucement de baisser la dose, avertir le patient et son entourage des effets indésirables possibles, et ces patients doivent être suivis de manière régulière. S'ils ont une forme compliquée ou sévère, la prise en charge relève d'un centre spécialisé qui entraînait à prendre en charge les sevrages en dopaminergique, les traitements un petit peu innovants, etc. Voilà, je vous remercie.